Chapitre 7. Ils avaient quitté le relais depuis 3 jours. Les montagnes paraissaient à présent plus nettes, mais il ne fallait pas s'y fier. Ils voyaient le désert monter progressivement, en douceur, se fondre au contrefort, au premier versant nu, le soubassement perçant à travers l'écorce terrestre, triomphal et menaçant, le triomphe de l'érosion. Plus haut, la terre s'aplanissait à nouveau sur une courte distance, et pour la première fois depuis des mois, voire des années, le pistolero vit de la vraie verdure vivante. De l'herbe, des épicéas miniatures, peut-être même des saules, tous nourris par l'écoulement de la neige située plus en amont. Au-delà, la roche reprenait ses droits en monticule cyclopéen, dans sa splendeur effondrée, jusqu'à la calotte aveuglante de neige. Plus à gauche, une gigantesque crevasse ouvrait la voie vers les falaises de grès, plus petites et érodées, les plateaux et les buttes voilés par l'écran gris des averses quasiment ininterrompues. La nuit, Jake restait assis pendant plusieurs minutes avant de tomber de sommeil, fasciné par les coups de sabre éclatant de la foudre lointaine, blanche et mauve, zébrant la limpidité de l'air nocturne. Le garçon tenait bien la piste. Il était robuste, mais plus important encore, il semblait combattre l'épuisement avec une réserve de calme et de volonté que le pistolero appréciait et admirait. Il parlait peu et ne posait pas de questions, pas même concernant la mâchoire que le pistolero tournait et retournait entre ses mains en fumant sa cigarette du soir. Le pistolero percevait que le garçon se sentait très flatté par sa compagnie, peut-être même exalté, et cela le perturbait. Ce garçon s'était trouvé sur son chemin. Aussi longtemps que tu voyageras avec ce garçon, l'homme en noir voyagera avec ton âme dans sa poche. Et le fait que Jake ne le ralentit pas ne faisait qu'ouvrir des perspectives plus sinistres encore. Il croisait à intervalles réguliers les restes symétriques des feux de camp de l'homme en noir, et il semblait au pistolero que ces restes étaient à présent beaucoup plus récents. Le soir du 3e jour, le pistolero fut certain d'avoir aperçu au loin la lueur d'un autre feu de camp, quelque part dans les premières pentes des contreforts. Mais il n'en tira pas le plaisir qu'il aurait attendu auparavant. L'une des devises de Cort lui revint à l'esprit. « Faut se méfier de l'homme qui fait semblant de boiter. » Le 4e jour après leur départ du relais, peu avant 2 heures, Jake trébucha et faillit bien tomber. « Là, assieds-toi, » dit le pistolero. « Non, ça va. »« Assieds-toi. » Le garçon obéit. Le pistolero s'agenouilla à côté de lui afin de le faire profiter de son ombre. « Bois. » « Ce n'est pas ce qui est convenu, je dois pas avant... bois. » Le garçon but 3 gorgées. Le pistolero humidifia le coin de la couverture, beaucoup moins chargé à présent, et apposa le tissu mouillé sur les poignets et le front du garçon, qui était brûlant de fièvre. « À partir de maintenant, nous nous reposerons chaque après-midi à cette heure-ci. 15 minutes. Tu veux dormir ?»« Non !» Le garçon lui adressa un regard honteux, auquel le pistolero répondit par un air impassible. Distraitement, il extirpa une balle de son ceinturon et se mit à la faire danser entre ses doigts, amorçant une envolte. Le garçon l'observait, fasciné. « C'est chouette » fit-il. Le pistolero acquiesça. « Ça, c'est vrai. » Et après une pause. « Quand j'avais ton âge, je vivais dans une ville fortifiée, je te l'ai déjà dit ?» Somnolent, le garçon fit non de la tête. Eh bien, c'est fait. Et il y avait un homme mauvais. Le prêtre ?
Disons que parfois je me le demande pour tout te dire. Je me demande s'il n'était pas deux. Je crois maintenant que c'était des frères, peut-être même des jumeaux. Mais est-ce que je les ai déjà vus tous les deux ensemble ? Non. Jamais. Cet homme mauvais, ce Martin, C'était un magicien, comme Merlin. On connaît Merlin là d'où tu viens? Merlin et Arthur et les chevaliers de la table ronde? Répondit Jake d'un air rêveur. Le pistolero sentit une pulsion ignoble le traverser. Oui, Arthur l'aîné, tu dis vrai. Sois-en remercié. J'étais très jeune. Mais le garçon dormait assis, les mains proprement posées sur les genoux. Jake. Oui, là. L'irruption de ce mot dans la bouche du garçon le fit méchamment sursauter, mais il ne laissa pas sa voix le trahir. Lorsque je claquerai des doigts, tu te réveilleras. Tu te sentiras frais et reposé. Tu as bien intuité. Oui? Alors allonge-toi. Le pistolero plongea la main dans son sac et en retira de quoi se rouler une cigarette. Il manquait quelque chose. Il chercha sa manière minutieuse et appliquée et le trouva. L'élément manquant, c'était cet exaspérant sentiment d'urgence. Ce sentiment d'être à tout moment sur le point de se faire distancer, comme si la piste allait se tarir, ne lui abandonnant qu'une trace de pas à demi effacée. Tout cela avait disparu, et le pistolero était de plus en plus persuadé que l'homme en noir voulait se faire prendre. Faut se méfier de l'homme qui fait semblant de boiter. Que se passerait-il ensuite? La question était trop vague pour retenir son attention. Cuthbert y aurait vu un intérêt plein d'entrain. Il en aurait probablement tiré une blague. Mais Cuthbert avait disparu, aussi sûrement que le corps de Deskine et le pistolero ne pouvaient qu'avancer dans la voie qu'il connaissait. Tout en fumant, il observa le garçon et son esprit revint sur Cuthbert, qui riait toujours. Même à la mort, il était allé en riant. Et sur Cort, qui ne riait jamais. Et sur Martin, qui souriait parfois, d'un sourire mince et silencieux, qui brillait d'un éclat dérangeant qui lui était propre, comme un œil qui s'ouvrirait dans le noir et dans lequel il y aurait du sang. Et il y avait le faucon, bien entendu. Le faucon s'appelait David, un nom inspiré par la légende du garçon à la fronde. Il était certain que David ne connaissait rien d'autre que le besoin de tuer, de déchirer et de terroriser. Comme le pistolero lui-même, David n'était pas un dilettante. Il n'hésitait pas à monter au combat. Sauf peut-être à la fin. Le pistolero avait l'impression douloureuse que son estomac remontait contre son cœur, mais rien ne se lut sur son visage. Il regardait la fumée de sa cigarette monter dans l'air brûlant du désert et disparaître, et son esprit s'attarda en arrière.